grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, on s'intéresse aux souffrances liées à la contraception féminine. Presque toutes les femmes subissent ou ont subi un inconfort, un désagrément, une souffrance plus ou moins forte liée à un contraceptif médicamenteux. Bien qu'elle ait libéré les femmes de la peur d'enfanter en faisant l'amour, la pilule entraîne des effets secondaires, qu'il s'agisse de nausées, de douleurs, d'épisodes dépressifs, d'acné, de migraines, de baisse de la libido ou encore, dans certains cas, de risques graves comme l'embolie pulmonaire ou l'accident vasculaire cérébral. Quelles sont les alternatives offertes aux jeunes générations qui ne veulent plus affronter les risques liés à la pilule œstroprogestative ou à la contraception hormonale? Pour nous éclairer ce matin, je reçois la journaliste indépendante Sabrina de Busca, qui publie un manifeste « Marre de souffrir pour ma contraception » et avec la gynécologue Danielle Hassoun. Que vous soyez une jeune femme ou une octogénaire, vous pouvez réagir, témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, et les hommes peuvent également témoigner. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, vous posez une question digne du bac philo. Suis-je propriétaire de mon corps?
Ben oui, il faut commencer à s'y préparer, mais aussi parce que finalement c'est au nom d'une appartenance, hein, de mon corps m'appartient, que ces droits contraceptifs ont été conquis. Est-ce que le registre de la propriété, c'est le bon registre pour penser le rapport à notre corps?
A tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Sabrina de Busca.
Et bonjour Ali.
Vous êtes journaliste indépendante. Vous aviez frappé un grand coup avec votre livre « J'arrête la pilule » disponible en poche chez J'ai lu. Et vous récidivez avec « Marre de souffrir pour ma contraception » publié au Lien qui libère avec des illustrations de Joy, sous-titré « Manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante ». Alors quel tsunami au moment de la publication de « J'arrête la pilule » dans le corps médical et chez certaines féministes. On a parlé d'un brûlot, d'un pamphlet anticontraception, de remise en question d'un des grands acquis des luttes féministes, des tribunes publiées dans la presse contre votre livre, alors que votre livre, eh bien, c'est une enquête très solide et vos détracteurs ne vous ont pas forcément attaqué sur les faits.
Non, finalement, moi j'ai écouté tout ce qui a été dit et avec intérêt parce que je trouve ça intéressant d'échanger, de débattre, et malheureusement, je n'ai reçu que des attaques sur la forme, et en fait moi j'ai surtout senti des peurs. Pour moi, ce qui m'était opposé, c'était des réflexes pavloviens, parce que nos droits des femmes, ils sont tellement récents, ils sont tellement encore fragiles, et on est d'ailleurs en plein backlash par rapport à tout ça, que effectivement, dès qu'on va dire quelque chose d'un petit peu négatif sur la pilule ou autre, on a l'impression qu'on va attaquer le droit à la contraception, ce qui n'est pas du tout le cas. L'idée ici, c'est plutôt de dire voilà, les femmes actuellement renforcées par les combats de leurs aînés ont acquis le droit à la contraception et elles veulent aller encore plus loin en ayant une contraception efficace, mais cette fois-ci sans les effets secondaires. Et je vois pas en quoi c'est pas féministe ou en quoi on peut pas l'entendre.
Vous avez subi des attaques verbales et même parfois physiques, mais vous avez également reçu du soutien, hein, de lectrices, d'internautes. Vous citez par exemple beaucoup d'internautes qui vous ont vraiment... qui sont allés dans votre sens et qui ont témoigné, des témoignages très forts.
Ben, finalement, en fait, moi, j'ai juste impulsé par un travail journalistique, peut-être une autorisation à s'exprimer sur le sujet. Pourquoi aujourd'hui je publie un manifeste où je prends du coup la casquette de féministe plus que de journaliste, puisque je donne mon opinion, ce que je me refusais des fois un peu à faire jusque-là. Parce que justement, depuis un an et demi qu'est sorti « J'arrête la pilule », rien n'a changé et il faut juste être pragmatique. On se rend compte qu'on a 20% de la diminution de la consommation de pilules en France depuis les années 2000.
Entre 2000 et 2016.
Mais voilà, les femmes, elles n'ont pas attendu mon livre pour arrêter la pilule. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Il faut répondre à cette demande parce qu'elles sont en souffrance.
Et vous citez les propos de la féministe Valérie Ray-Robert. Nous n'avons plus le temps de soigner les égos de ceux qui se sentent davantage blessés par ce que nous disons que par la réalité.
Effectivement, la foule de témoignages qui ont suivi mon livre et moi, j'ai eu la chance de faire des conférences et puis de recevoir plein de mails. Finalement, les femmes, elles sont absolument d'accord avec le fait que oui, la contraception efficace, oui, mais pourquoi toujours vouloir médicaliser? Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver mieux? Finalement, c'est ça. En fait, moi, j'essaye vraiment d'être dans un esprit constructif et c'est pour ça qu'on nous demandons d'ailleurs dans la tribune une concertation nationale contraception parce qu'aujourd'hui, il y a un malaise dans la contraception et que si on n'en parle pas, ça va pas avancer et les femmes après elles se retrouvent réellement seules à aller sur des applications inefficaces et là c'est des vrais risques d'IVG ou autre.
Il y a quelques années vous témoignez sur votre blog de l'arrêt de la pilule et puis au-delà de votre cas personnel une question revenait, la pilule est-elle dangereuse pour la santé des femmes? Alors vous avez enquêté pendant un an et vous avez épluché la littérature scientifique et rencontré de nombreux chercheurs.
Oui, et le problème c'est qu'effectivement je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait mais qu'on ne dit pas. Parce que en fait finalement il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'actuellement on est tellement habitué au degré d'efficacité que nous procure la pilule qu'on en est dépendant parce qu'on n'a pas pensé à développer mieux en 60 ans ou à développer d'autres moyens. Et donc j'essaie juste de dire est-ce qu'on peut pas trouver mieux.
Docteur Daniel Assoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue responsable d'un centre IVG. Vous avez collaboré aux recherches menées par l'INSERM sur les échecs de la contraception et sur les représentations de la ménopause. Vous comprenez la levée de bouclier d'une partie du corps médical contre le livre de Sabrina de Busca?
Oui, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt effectivement ce que vous avez écrit. Je trouve intéressant la question que vous posez. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans vos réponses, il y a quand même quelques chiffres qui sont pas tout à fait justes. Là où je vous suis complètement et je trouve ça absolument... D'abord, dire que moi, je vis pas du tout comme agressivement qu'on remette en cause notre pratique. C'est vrai que la pratique des médecins a été extrêmement médicalisée, que nous n'avons pas offert aux femmes d'autres alternatives. Mais il faut bien dire aussi, la pilule, ça existe depuis 60 ans maintenant. C'est commercialisé depuis les années 70 et on peut dire démocratisé en France depuis les années 90. Les chercheurs, évidemment, ça a été une manne pour les laboratoires, c'est clair. Ça a fonctionné, ils n'ont strictement pas cherché autre chose. Et en ce sens, je rejoins votre combat en vous disant qu'effectivement, je trouve absolument lamentable qu'il n'y ait pas eu d'autres recherches dans d'autres sens, dans d'autres voies. Et ça, c'est les femmes qui l'ont payé. Mais, à contrario, il faut que je vous dise aussi quand même que d'abord, toutes les femmes ne se plaignent pas de la pilule. Et quand vous écrivez une solution sans effet indésirable de la contraception, je vous suis intégralement. Mais là où je ne vous suis pas, c'est la pilule n'a pas toujours des effets indésirables. Et il y a la majorité des femmes, on peut dire, c'est là où je pense que nous allons diverger, qui prennent la pilule et qui s'en trouvent très bien, avec y compris des bénéfices. Hein, moins de douleurs de règles quand même, c'est non négligeable et pour certaines vraiment c'est un plus. Donc si vous voulez, moi je veux absolument et je vous suis complètement pour me battre sur d'autres contraceptions, pour réfléchir à autre chose, mais c'est pas pour autant qu'on a besoin d'ailleurs. Je pense que cette lutte elle peut se mener sans pour autant dire que la pilule est une mauvaise chose. Comme tout produit médical, il y a des effets secondaires, ils sont relativement faibles, et quant aux incidents qui sont à déplorer, leur chiffre est quand même très très faible aussi.
90% des femmes prennent des pilules œstroprogestatives. Comment ces pilules agissent-elles? Comment empêchent-elles la grossesse?
C'est pas 90% des femmes qui prennent la pilule. Il y a actuellement à peu près 40% des femmes qui prennent des pilules, effectivement. La baisse que vous donnez entre 2010 et 2016 n'est pas de 20%, mais de 10%.
Entre 2000 et 2016.
Entre on parle tout le temps de 2010-2016. C'est un petit peu moins que, c'est moins
on
que
est passé
20%.
De 52 à 36%.
Et c'est très variable d'une classe d'âge à une autre. C'est-à-dire que on peut penser aussi, et là c'est un autre élément complètement différent, que la baisse de la pilule est aussi liée, pour un certain nombre de femmes, à un moindre accès. Parce que les femmes qui ont le plus diminué la pilule, c'est celles qui ont 20-24 ans, et celles qui ont un moindre accès aux soins, des difficultés et une certaine forme de précarité. Alors maintenant, pour répondre à votre
question...
Mais
je reviens sur mon chiffre, 90% des femmes qui prennent la pilule, prennent des pilules œstro-progestative, vous confirmez Sabrina Debusca?
Oui, c'est plus 80%, ouais. Ça dépend parce que la micro-progestative commence à prendre.
D'accord, mais comment une pilule agit-elle? Comment empêche-t-elle la grossesse?
Alors ça, c'est le point fort de la pilule, c'est qu'elle a trois verrous pour bloquer effectivement et pour empêcher les grossesses. D'une part, elle bloque l'ovulation. D'autre part, elle modifie la glaire de telle sorte à ce que les spermatozoïdes ne puissent pas grimper et donc ne puissent pas entraîner une fécondation. Et troisième élément, effectivement, qui empêche une grossesse, c'est que la muqueuse à l'intérieur de l'utérus n'est plus favorable à une nidation. Donc ça fait trois verrous, d'où une efficacité extrêmement forte.
Sabrina Debusca.
Pour rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, des choses qui sont scientifiquement établies et qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement inquiétantes à propos des hormones synthétiques de la pilule, mais c'est valable pour les pesticides et c'est valable pour plein de choses, c'est que par exemple, l'éthinyl estradiol, donc un oestrogène qu'on utilise énormément dans les contraceptifs, a un effet que l'on dit génotoxique, c'est-à-dire qu'il impacte notre ADN. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai rencontrées durant mon enquête sur la pilule qui peuvent nous questionner sur la pérennité, sur voilà, est-ce que c'est une bonne idée de prendre des hormones synthétiques pendant autant de temps, sur autant de générations. Donc c'est des questions, moi j'ai pas toujours toutes les réponses, tout ce que je dis c'est qu'il y a beaucoup de faits qui sont inquiétants et l'impact génotoxique à plusieurs générations, on ne sait pas ce que ça donne et ça touche toutes les femmes qui prendront des hormones même si l'impact ne se voit pas comme ça sur le corps. Ce sont des questions qui ont été très peu débattues mais qui sont pourtant cruciales.
Docteur Daniel Hassoun.
Absolument, elles sont cruciales. C'est vrai que nous n'avons aucune de ces réponses. C'est vrai que nous avons privilégié l'efficacité. C'est vrai que c'était extrêmement difficile pour ma génération de le penser ainsi. C'est vrai que nos préoccupations, que je vais dire, pour faire simple, écologiques, eh bien, on ne se posait pas cette question. Tant pour la contraception d'ailleurs que pour tout le reste. Ce sont des questions qui sont survenues, ça me semble tout à fait légitime de se les poser. Et c'est pour ça que je peux vous suivre dans l'idée qu'il faut chercher autre chose, véritablement. Et que je suis un peu en colère moi aussi contre les laboratoires, qui n'ont strictement rien cherché. Mais ce que je ne veux pas, ce qui m'ennuie dans votre raisonnement, c'est de dire ce sont les effets secondaires. Non, qu'on se pose une question globale, générique, en se disant « oui, peut-être, la pilule, ce n'est peut-être pas une bonne chose pour la santé sur le long terme, d'accord. » Mais ce n'est pas les effets secondaires qui, dans la majorité des cas, font abandonner la pilule. Dans mes consultations, j'ai énormément de jeunes femmes qui viennent et qui disent « j'en ai ras-le-bol de la pilule parce que j'ai peur pour ma santé à l'avenir ». Quand on leur pose la question « est-ce que vous êtes pas bien avec cette pilule ?», elles vous répondent « non, c'est pas le problème ». Mais moi, j'entends tout à fait ça. J'entends qu'on puisse avoir envie d'arrêter parce qu'il y a des effets secondaires et j'entends qu'on puisse avoir envie d'arrêter même s'il n'y a pas d'effets secondaires parce qu'on se dit que peut-être sur le long terme, c'est une préoccupation qu'on doit avoir pour sa santé.
Et nous reviendrons dans quelques instants sur les effets secondaires de la pilule. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Nicolas Bove et c'est réalisé par Stéphanie Taxier.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirène de joie sur ton chemin qui résonne, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Julien Clerc, ce n'est rien.
Il y a la pilule.
Oh, pardon, j'oubliais la pilule.
Grand bien vous fasse.
Seulement la pilule, ça protège contre les bébés dans le petit ventre, mais pas contre les bobos dans le petit cœur.
Sur France Inter.
10h22, comment ne plus souffrir à cause de sa contraception? C'est notre thème ce matin avec la journaliste indépendante Sabrina de Busca et avec la gynécologue Danielle Assoun, 01 45 24 7000. Écoutons Ninon qui lit une notice de pilule œstroprogestative dans l'émission 66 minutes sur M6.
Variation d'humeur, y compris dépression, prise de poids, diminution du désir sexuel, migraine. Enfin voilà, je veux dire, il y a une liste d'à peu près une vingtaine d'effets indésirables. Et moi, sur les 20, j'en avais déjà bien une dizaine, quoi. On peut également avoir des thromboses veineuses rétiniennes, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, caillot sanguin bloquant d'autres vaisseaux sanguins. Donc là, c'est un peu les pires signes qu'on puisse avoir. Et moi, du coup, dans le tableau, ben, j'en ai un. Donc c'est là que je me suis dit, ouais, la pilule, il faut peut-être que je me penche un petit peu plus dessus.
Extrait de 66 minutes diffusé dimanche dernier. Alors Sabrina de Busca, je rappelle que vous publiez à la fois « Marre de souffrir pour ma contraception » et « J'arrête la pilule » en poche chez J'ai lu. Beaucoup de femmes ne lisent pas les notices de la pilule. Comme pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'alternatives faciles à utiliser. On se pose beaucoup moins de questions. C'est facile et voilà, on fait pas attention aux éventuels effets secondaires.
Exactement, et d'ailleurs c'est pas du tout ça qui est en question. La plupart des femmes sont extrêmement satisfaites de l'efficacité des contraceptions modernes médicalisées, donc pilules et DIU, donc ça c'est très bien.
Rappelez mais ce que le DIU...
Le DIU, le dispositif intra-utérin, pour ne pas dire stérilé, parce que dans stérilé il y a l'idée de stérile et c'est pas, ça reflète pas la réalité, donc plutôt DIU. Mais donc non, la plupart des femmes, en fait, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les effets secondaires, moi ce que j'ai remarqué, et ce qu'on peut remarquer dès aujourd'hui avec le hashtag paye ta contraception que j'ai lancé, pour demander aux femmes de témoigner elles-mêmes, qu'on écoute vraiment les femmes par rapport à ces effets secondaires, parce que moi, ce que j'ai remarqué dans mon enquête d'un an sur J'arrête la pilule, c'est que il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans les études et que on a une espèce de tendance à la minimisation de manière générale des effets secondaires de ces hormones. Et du coup, on n'écoute pas beaucoup les femmes. Alors que finalement, si vous posez la question autour de vous, sur le nombre d'effets secondaires sur une notice de pilule, il y en a, je sais pas, 50. Sur 10 ans, 15 ans de prise de pilule, il y a quasiment pas une seule femme qui va pas avoir un des effets secondaires. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des effets secondaires latents dont on ne sait rien, etc. Donc, si, il y a quand même énormément de femmes qui sont touchées par les effets secondaires des contraceptions, et c'est justement ce tabou-là que je vais essayer de lever avec ce manifeste, parce que j'en ai marre de ce décalage entre la parole des femmes qui disent toutes « bah oui, j'ai eu un effet secondaire sur mon contraceptif » et cette espèce de parole médicale ou scientifique qui n'arrête pas de minimiser tout ça en disant « mais non, c'est minoritaire, etc. » Demandez aux femmes, vous verrez que c'est pas minoritaire.
Et tiens, on va demander à Myriam. Bienvenue Myriam, vous habitez Paris.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, je suis ravie de pouvoir témoigner parce qu'effectivement, j'ai pris la pilule pendant plus de 15 ans. Il y avait beaucoup, beaucoup d'effets secondaires et il n'y a pas un médecin, pas un spécialiste qui a pensé que c'était la pilule. Mmh. Donc, c'était des épisodes dépressifs incompréhensibles, souvent de l'apathie, très fatiguée beaucoup, ce qui était inexplicable. Petit à petit, j'ai pris beaucoup de poids. Une libido inexistante. Pas trop envie de sortir. J'étais très bien toute seule, d'ailleurs aussi. Célibataire, longue durée. Donc voilà, pendant 15 ans. L'année dernière, pour mes 40 ans, juste avant mes 40 ans, je suis allée voir une médecin chinoise. J'ai dit, écoutez, il y a un truc qui cloche, je comprends pas ce que j'ai. Ça fait 10 ans que ça dure, j'en peux plus. Je sais que je suis pas comme ça, je ne comprends pas ce que j'ai. Et donc, le médecin chinois prend le pouls, les constantes vitales, etc. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Et elle me dit, arrêtez la pilule et revenez me voir. J'ai arrêté la pilule, j'ai changé de vie. C'est ahurissant. Et il n'y a pas un médecin qui y a pensé. Par exemple, au sport, je commençais à faire, de 5 ans avant l'arrêt, des malaises. À chaque... j'avais aussi des chutes de tension très très fréquentes. Et là, je ressuscite. Je retourne au sport 4 fois par semaine, comme à 20 ans. Toujours aujourd'hui, j'ai 2 fois 20 ans, mais c'est comme quand... j'ai de la chance, je revis ma vingtaine. J'ai une énergie de vie incroyable. Et au niveau de la libido, j'en parle même pas. Enfin, c'est incomparable. Enfin, j'en ai. Et là, c'est une amie qui avait arrêté aussi la pilule qui m'avait dit « Essaie d'arrêter, tu verras, ça redonne envie de sortir, ça redonne envie de rencontrer quelqu'un. » Et pareil, le désir d'enfant ne m'était jamais venu. Jamais.
Merci Myriam pour votre témoignage. Voilà. Merci beaucoup. Dans le même sens, nous avons une internaute qui tient à rester anonyme qui nous écrit ce témoignage. J'avais pris une fois la pilule quand j'étais ado, mais seulement quelques mois, et je ne me souviens pas des faits particuliers. Puis je l'ai reprise adulte vers 22-23 ans. J'avais consulté une gynécologue qui m'a prescrit d'emblée Lilou, une pilule. Elle savait que j'avais des antécédents familiaux au niveau cardiaque, phlébite, thrombose, mais ça ne l'a pas inquiété. Environ 10 jours après, j'ai commencé à prendre cette pilule, je me suis sentie très déprimée, très anxieuse, et j'ai commencé à avoir des attaques de panique sans raison. Je me sentais tout le temps triste et stressée, et je n'avais plus faim. J'ai pensé tout de suite à la pilule, et j'ai demandé un rendez-vous en urgence à ma gynéco, qui m'a pratiquement engueulée en me disant que j'exagérais certainement et que mon état devait découler dans ma lettre, et qu'en aucun cas la pilule ne pouvait provoquer de tels effets sur mon humeur et mon état mental. Je me suis renseignée sur des blogs, des forums, et j'ai découvert que beaucoup d'autres filles avaient plus ou moins les mêmes symptômes que moi, et je me suis sentie beaucoup moins seule. Alors Sabrina de Busca, on vient d'entendre Myriam, on a cet internaute qui nous donne ce témoignage, c'est peut-être très subjectif, mais quels sont les principaux effets secondaires de la pilule contraceptive attestés par la recherche scientifique ?
Ça va dépendre de chaque femme sur les effets graves. Donc il y a les accidents thromboemboliques qui vont d'un caillot dans la jambe, d'une thrombose à l'embolie pulmonaire, cérébrale, etc. Les AVC, le surrisque de cancer pour sein, foie, col de l'utérus et voie biliaire qui est attesté par le CIRC.
Centre international de recherche sur le cancer.
Voilà, depuis 2005, donc qui est un léger surrisque, mais qui fait quand même sur le million de femmes qui le prennent, ça fait quand même chaque année des femmes qui déclenchent les cancers. Et il y a au contrario, des effets protecteurs sur d'autres cancers qui sont intéressants aussi. Mais après, sinon, il y a la baisse de... Il y a aussi ce qui est le plus difficile au niveau des études scientifiques, sont sur les effets impalpables. Donc la baisse de libido, la dépression, c'est des choses difficilement quantifiable au niveau scientifique, donc on a des effets aussi là-dessus qu'on est en train de découvrir aussi de plus en plus au fur et à mesure des années.
Le regard du docteur Daniel Assoun, gynécologue.
Alors, la grande difficulté, c'est que ce sont des produits actifs. Comme tous les produits actifs, ils ne sont pas neutres et donc ils sont perçus et reçus par les femmes, là en l'occurrence, ce sont des femmes, de façon extrêmement différente. C'est-à-dire que on peut décrire 1000 effets secondaires et c'est la réalité. Il ne s'agit pas de remettre en cause la parole des femmes qui le vivent et qui le sentent ainsi. C'est vrai ce qu'elles disent, c'est-à-dire ce qu'elles sentent, c'est vrai. La grande difficulté, effectivement, et peut-être que les médecins là sont pas toujours suffisamment attentifs, c'est de faire la relation de cause à effet entre ces effets secondaires, dont certains, je le répète quand même, sont extrêmement rares, et d'autres qui sont un peu plus fréquents. Alors, c'est vrai que ça nous met, nous médecins, qui sommes toujours dans un souci d'efficacité maximum. Donc, quand même, on n'est pas tous mauvais et on a envie quand même que les femmes soient tranquilles concernant la contraception. Parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est une évidence, c'est que, mais qu'on oublie souvent, c'est avoir une grossesse non désirée, ça a quand même quelques conséquences. Et je dirais, et c'est effectivement tout à fait dommageable, plus que ça même, il y a un risque à être enceinte et à accoucher. Donc si vous voulez, nous médecins, effectivement, avec nos petits moyens, nous sommes obligés tout le temps de faire cette balance bénéfice-risque. Et pour le moment, parce que nous n'avons pas d'alternative, si ce n'est que l'alternative, c'est effectivement actuellement le DIU, la stérilet, qui peut être une des alternatives possibles, effectivement, eh bien, voilà, nous sommes à l'écoute de ce qu'elles disent. Et il ne faut pas croire, en tout cas, que nous n'entendons pas et que nous ne croyons pas ce qu'elles disent.
Annick nous dit « J'ai 66 ans et j'ai pris la pilule toute ma vie, de 18 ans à 54 ans. Je n'ai jamais eu d'effet secondaire et toutes mes copines de cette époque ont fait de même. C'est une libération formidable. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ne s'en rendent pas compte. Je suis en très bonne santé. » Et Julie nous dit « J'ai pris la pilule pendant environ 6 ans, puis j'ai arrêté pendant 2 ans, non parce que j'avais des effets secondaires, mais plus pour ne plus avoir à prendre de cachet tous les soirs de ma vie. »
Voilà, c'était extrêmement contraignant aussi comme contraception, c'est vrai. Prendre un cachet tous les jours, je me demande si les hommes seraient capables de le faire d'ailleurs.
Ça
j'ai
va bientôt
quelques
arriver.
Doutes là-dessus. L'observance est difficile aussi.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez une question à ce sujet-là d'ailleurs.
Oui, non, moi je me demandais si à vous écouter, une façon de limiter les effets secondaires, la contrainte que représente cette contraception autour de la pilule, etc. C'est pas d'exiger davantage de recherche et de discussion autour de la contraception masculine. Il faut que il faut en fait décharger uniquement les femmes de cette question-là. C'est une question de qui fonctionne en couple. Enfin,
c'est exactement ce que demande le manifeste et la tribune, mais moi j'ose rêver plus loin et rêver ambitieux, alors on pourra le critiquer, mais j'ose me projeter dans un monde où en fait personne n'aurait à mourir ou à souffrir pour sa contraception. Je sais que c'est un peu foufou comme idée aujourd'hui, mais je trouve ça quand même assez... Ça en dit long sur notre société, qu'on accepte que des millions de femmes se médicalisent leur corps, et je reviens pas à la nature, voilà, c'est pas une déification de la nature à laquelle je procède. Je dis juste que on peut quand même comprendre que les femmes aient envie d'une contraception efficace sans avoir à s'exposer à ces risques, même si elles vont pas toutes les subir, évidemment. Et le problème, c'est que voilà, il y a quand même des choses qui sont inquantifiables. Enfin, on est une nouvelle génération qui veut revenir à une peut-être démédicalisation de la contraception. Ce qui pose problème parce qu'on a très peu développé de contraception non médicalisée efficace et que malheureusement, dès qu'on se permet de... Voilà, on fait un choix pour notre corps, pour notre contraception, de dire on ne veut pas, je ne suis pas malade. En fait, on a franchi un pas inédit dans les années 60 en disant... Des millions de personnes qui ne sont pas malades vont prendre un médicament. Et donc forcément, quand on n'a pas un cancer, quand on n'a pas une leucémie, on n'est pas prêt à subir les mêmes effets secondaires. On est même prêt à en subir aucun, on n'en a pas envie. Et donc du coup, aujourd'hui, moi j'aimerais que... Voilà, on va passer par la pilule pour hommes, on va faire les mêmes choses pour les hommes, on va avoir donc pareil, alors des effets secondaires chez les hommes. Et alors quoi? Et au bout de ça, on va arriver et dans 50 ans, les hommes vont dire « Bon, bah c'est vrai que c'est pas top top, maintenant développons des contraceptions sans aucune souffrance. » J'aimerais qu'on en arrive là, déjà, maintenant.
Daniel Assoum.
Alors, d'abord, moi je m'insurge contre le mot « souffrance ». Je trouve que... Là, j'ai du mal à vous suivre quand même. Inconfort, difficulté, tout ce que vous voulez, d'accord. Mais souffrance, je trouve ça un peu fort.
Pourquoi ?
Parce que je suis pas sûre que ça soit une souffrance. Enfin, il y a des gens qui souffrent, ça c'est clair. Il y a des femmes qui souffrent, ça c'est clair aussi. Mais ça s'inscrit peut-être dans quelque chose de différent. Je voudrais revenir sur la précédente auditrice là qui disait qu'elle n'avait pas souffert de contraception. Il est clair que les représentations qu'on peut avoir soi-même de ces produits est différente quand on a 60 ans et qu'on a vécu quelque chose. À 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour ma génération de féministes, c'est vrai que je pense que ça ne pouvait même pas arriver à notre niveau de conscience, le fait qu'il pouvait y avoir des inconforts, tellement là, pour le coup, la balance bénéfice-risque nous était positive. Et je voudrais répondre aussi sur le problème des hommes. En fait, c'est assez intéressant de savoir que jusqu'aux années 70, c'est-à-dire jusqu'au moment où les contraceptions étaient médicalisées, au fond, la contraception se gérait au sein du couple, par les méthodes du retrait, du préservatif, des dates, etc. Mais que ça se gérait au niveau du couple. Alors c'est vrai que la médicalisation, ça a eu pour effet bénéfique, maléfique, je ne sais pas, à discuter, de passer sous contrôle médical. Et à partir de là, notre seul objectif a été l'efficacité, sans entendre autre chose. Mais je pense que nous sommes effectivement dans la relation homme-femme aussi. Parce que c'est vrai que ma génération ne voulait pas laisser ça aux hommes. C'est clair. Hein. C'était notre problème. Nous ne voulions pas être enceintes. Nous avortions quand ça cafouillait un peu. Mais nous n'avions pas cette confiance-là. Et que ce qui est fondamental dans la contraception maintenant, c'est la relation homme-femme, qui, j'espère, à un moment va changer, là où la domination masculine aussi peut changer, j'espère. Mais et c'est Camille, pas donné, hein, c'est pas gagné, là. Hein.
Camille qui nous dit, je trouve cela absurde que ce soit à la femme d'être responsable de sa contraception et d'être si peu accompagnée. À quand une contraception pour les hommes?
Ça dépend. Il y a des hommes qui accompagnent fort bien leurs femmes.
C'est le sentiment de Camille.
Je voudrais juste revenir sur quelque chose, en fait, par rapport à ce que vous dites. Moi, je fais un parallèle vraiment avec MeToo. Avec MeToo, ce qui s'est passé, c'est des femmes qui subissaient depuis 50, 60 ans, depuis l'aune de l'humanité, des choses qu'elles acceptaient et qu'elles considéraient comme normales, se sont mis tout d'un coup à dire, écoutez, nous, on ne veut plus supporter ça. Alors que nos grands-mères trouvaient ça tout à fait normal. Et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose avec la pilule. C'est-à-dire, on crache pas du tout sur les acquis, on est très heureuse de les avoir. Moi, ma grand-mère, elle s'est battue pour le planning et la pilule. Donc, pour le coup, voilà. Mais aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus de subir des effets secondaires de leur contraception. Et donc, c'est une évolution. De même que pour MeToo, on n'accepte plus qu'on nous harcèle au travail, qu'on nous mette des mains aux fesses. Et donc, on veut évoluer. Donc, c'est positif. Il n'y a pas de problème, en fait, là-dedans.
Alors, le docteur Daniel Assoum n'aime pas le mot souffrance. Mais toutefois, pourquoi est-ce que les souffrances contraceptives sont-elles trop souvent banalisées, voire niées? Peut-on parler, Sabrina de Buscat, d'une certaine forme d'indifférence générale?
Ben, moi, c'est le mot qui ressort le plus quand j'ai fait notamment mon sondage pour J'arrête la pilule auprès de 3600 femmes. Je le répète, c'est pas un sondage IFOP, Ipsos, etc. Mais il vaut ce qu'il vaut. Mais demandez, posez la question autour de vous. Écoutez simplement les femmes. Le problème, c'est que, on a un problème aussi au niveau de la formation médicale des médecins, la formation continue qui est assurée uniquement à 98% par l'industrie pharmaceutique. Comment voulez-vous avec ça et avec des crédits alloués à la recherche qui sont presque à zéro qu'on ait du coup une science qui soit sans conflit d'intérêts? C'est pas possible. Donc actuellement on a ce gros problème là, du coup on a une vision favorable et les effets secondaires sont minimisés, particulièrement les impalpables, donc la libido, la dépression. Pourtant les études nous montrent que pour la libido, 20 à 40% des femmes sous contraception hormonale ont des baisses de libido, donc quand même c'est pas rien.
Et pour vous, certains professionnels de santé n'écoutent pas assez leurs patientes et jugent ces souffrances normales, que c'est le prix à payer. Et puis pour d'autres professionnels, il est inconcevable de laisser le corps des femmes à l'état sauvage, sauvage entre guillemets.
Ce qui ressort effectivement le plus, notamment de mon sondage et des milliers de témoignages que j'avais pu avoir par rapport à ça, les femmes, quand on leur demande de s'exprimer là-dessus, elles font énormément ressortir cette façon qu'a le corps médical de minimiser, quand ce n'est pas nié, les effets secondaires. Parfois parce que les médecins ne savent pas que ça peut être dû à la pilule, tout simplement, et d'autres fois parce qu'ils leur disent de toute façon il n'y a pas autre chose, et ça c'est ce qui est le plus ressorti. Moi j'ai pas de jugement là-dessus, j'ai pas, peu importe, et les médecins, les pauvres aussi, sont débordés, il y a plein de choses. En attendant, c'est les femmes qui souffrent, et quand elles parlent de ces effets-là, le compagnon s'en fiche, le médecin la rabroue, et elles se retrouvent toutes seules, quoi.
Réponse d'une gynécologue qui reste très calme.
Mais oui, mais pourquoi ne le serais-je pas? Alors, je vais répondre par... Bon, un sondage, c'est un sondage avec un certain nombre de biais. Je le redis, re-redis encore, je ne nie pas les effets secondaires de la pilule et je ne nie pas surtout le ressenti qu'ont les femmes et un ressenti parfois négatif. Quant à la formation, là je vous suis complètement, la formation est totalement insuffisante. La formation des jeunes médecins est tout à fait insuffisante. On a essayé de se pencher là-dessus beaucoup au collège des gynécologues obstétriciens dont je fais partie, à la commission orthogynie auquel j'appartiens, pour essayer effectivement d'améliorer cette formation. Oui, peut-être pas à 98%, mais la formation est assurée par les laboratoires, ce qui est une honte. Par ailleurs, il y a quand même des formations, puisque je fais partie de ces formateurs qui forment en particulier les médecins généralistes et les sages-femmes à la contraception, dans le cadre des formations permanentes, donc totalement en dehors des laboratoire.
Thibaut de Saint-Maurice, il est déjà l'heure de votre petite philosophie de la vie quotidienne. Que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien Ali, évidemment, un questionnement sur le corps et sur le rapport que nous entretenons avec notre corps, parce que choisir une contraception pour une femme comme pour un homme, hein, c'est agir sur son corps à partir d'une décision que l'on prend d'en modifier l'une des fonctions. Ça suppose que nos corps nous appartiennent, nos cœurs aussi. Et c'est d'ailleurs au nom de ce droit que nous avons sur nos corps que s'est mené le combat pour les droits contraceptifs. Mais si mon corps m'appartient, puis-je pour autant en faire ce que je veux ? Comment penser que l'on a un droit sur son corps sans en faire un objet comme les autres ? Et si mon corps est bien mon corps, alors je suis mon corps. Et le problème, c'est que je ne peux pas être un objet que l'on possède.
Mon cher Thibault, il faut donc clarifier le statut du corps.
Oui, et là, c'est le problème. Parce que le registre de la propriété et l'approche strictement juridique me semblent assez piégeuses. Dire que je suis propriétaire de mon corps, c'est supposer qu'il existe deux réalités bien distinctes. D'un côté, il y aurait le « je », le « moi », le sujet, la personne, et de l'autre, un corps, des organes, que l'on traînerait un peu partout avec soi, comme un boulet, ou, pour certains, c'est très beau, comme une vitrine. Penser que l'on est propriétaire de son corps suppose donc cette pensée dualiste du corps et de la personne. Le risque, c'est que mon corps n'est alors plus tout à fait moi, mais un bien que je possède, comme une voiture, des vêtements ou un téléphone. Il n'est plus tout à fait sûr alors qu'il puisse conserver une quelconque dignité. Peut-être faut-il, du coup, abandonner l'idée d'être propriétaire de son corps et le penser autrement. Je n'ai pas un corps, mais je suis mon corps, celui que je vis, celui qui est moi, indissociablement de moi. D'ailleurs, quand on se moque de mon poids ou de ma petite taille, n'est-ce pas toujours de moi que l'on se moque ? Et puis, n'est-ce pas d'abord par la présence de mon corps que je me présente aux autres ? Si donc, mon corps n'est pas un objet que je peux posséder comme les autres, alors je peux précisément commencer à le respecter. Comme le fait remarquer le philosophe Kant, chaque être a ou bien un prix ou bien une dignité. Et ce qui a un prix n'a pas de dignité, ce qui a une dignité n'a pas de prix, parce qu'on ne peut pas lui trouver d'équivalent. Ce qui a une dignité et pas de prix, on le respecte, tandis que ce qui n'a pas de dignité, on en fait ce qu'on veut. Ainsi donc, il faut que je ne sois pas propriétaire de mon corps pour que mon corps ne soit pas un objet et qu'il n'ait donc pas de prix, mais une dignité, et que je puisse donc le respecter. Voilà. Je suis libre de faire usage de mon corps, à condition de le respecter, c'est-à-dire à condition de lutter contre ceux qui voudraient s'en servir, et de lutter contre tout ce qui pourrait l'asservir. Ce n'est donc pas parce que je suis propriétaire de mon corps que la contraception est légitime, mais c'est parce qu'elle me permet d'être moins dépendant et plus autonome, tout comme le sport, tout comme une alimentation équilibrée avec au moins 5 fruits et légumes par jour, et tout comme des tonnes de tendresse et de caresses.
Et vous pourrez voir le beau corps de Thibaut de Saint-Maurice en vidéo.
Je le voyais dans vos yeux pendant que je parlais, qu'il y allait quelque chose qui allait sortir.
Le beau corps de Thibaut de Saint-Maurice en vidéo sur la page Facebook de Grand Mets Vous Fasse. Sabrina Debusca.
Oui, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, ce qui est très intéressant, vous savez, le slogan américain « Our body, ourselves », le fameux livre, c'est « Notre corps, nous-mêmes » qui a été mal traduit en français, puisqu'ils ont traduit notre mon corps m'appartient. Donc c'est exactement ce que vous disiez en fait, c'est que notre corps est nous-mêmes et c'est pas une propriété. Donc c'est intéressant, ça rebondit là-dessus avec le féminisme.
Daniel Assoun qui prend beaucoup de notes, qui a pris beaucoup de notes pendant notre chronique.
J'essaye de répondre. Oui, évidemment que notre corps nous appartient, mais en même temps c'est pas si simple. Il doit effectivement répondre à un certain nombre de normes sociales aussi. Hein. Donc voilà. Alors après, oui, c'est une liberté la contraception, c'est vrai.
Dans quelques instants, on s'intéresse aux méthodes contraceptives alternatives. Question témoignage au 01 45 24 7000.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.
recalcitrant and taciturn. You know I'd rather turn a burning scale instead of fish, yeah. Where's my accomplice? So take my hand, we'll do more than stand. Take my hand, we'll claim this land. Take my hand and we'll let the ride roll.
Andrew Bird d'interpréter Sisyphus.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Comment ne plus souffrir à cause de sa contraception à 10h47, c'est notre thème ce matin avec la journaliste indépendante Sabrina de Busca et avec la gynécologue Danielle Assoun qui a l'impression qu'elle ne parle pas assez. Le temps de parole est quasiment égal, ma chère Danielle. Bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour.
Alors, nous écoutons votre témoignage.
Oui, alors je vais essayer de faire court. En fait, je cumule depuis quelques années des soucis d'acné sévère et j'ai du cholestérol familial, donc ça a été compliqué pour moi de trouver un moyen de contraception. J'ai été à l'anneau vaginal, j'ai 32 ans, je précise. J'ai fait anneau vaginal, puis je suis passée au stérilet parce qu'on m'a dit que les hormones, ça suffisait. Sous stérilet au cuivre, j'ai eu une recrudescence d'acné pas possible. Je suis restée 6 ans avec, des cures de roaccutane, etc., etc. Je surpassais la pilule l'année dernière parce que j'avais très peur de me faire reposer un stérilet au cuivre une deuxième fois. Ça fait très mal. Et puis, j'ai fait un an de pilule. Donc, pareil, j'ai les jambes gonflées. Je suis un petit peu déprimée. C'est un peu compliqué le matin. Voilà, donc tout ça pour vous dire que là, je vais me faire poser un stérilet dans 2 heures. Mmh. Finalement, je repasse au DIU au cuivre. Et puis, pour retenter une troisième cure de roaccutane, éventuellement pour calmer mes problèmes de peau. Voilà.
Docteur Danielle Assoun.
Alors, c'est vrai qu'il y est parfois extrêmement difficile de trouver pour un certain nombre de femmes la contraception adéquate. Bon, l'acné, c'est un phénomène qui existe, totalement en dehors d'ailleurs des contraceptifs. On a fait croire aux femmes d'ailleurs que certaines pilules soignaient l'acné, ce qui est faux. Là, c'est scientifiquement bien montré. Il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, ça n'améliore pas vraiment l'acné, que ça l'aggrave parfois un peu, mais pas beaucoup. Alors, quant au stérilet, oui, il y a des effets aussi secondaires. C'est vrai que quand vous avez une technique, elle ne peut pas être... Ça, c'est le problème de la médecine. C'est que on ne peut pas avoir des techniques qui sont à zéro risque.
Eh bien, c'est justement toute la réflexion qu'il y a derrière cette génération nos pilules et que je traduis à travers ce manifeste. C'est justement la question de la démédicalisation de la contraception. Puisque, comme... Qui dit médicament, médicalisation, dit risque d'effets secondaires. On a plein de nouvelles générations là qui sont en train d'arriver nous dire ben non, nous on n'est pas malade, donc on veut pas d'effets secondaires. Donc moi j'aimerais juste qu'on puisse peut-être se porter vers des nouvelles idées de contraception non médicalisée qui nous éviteraient d'avoir ce genre de témoignages qui sont extrêmement nombreux.
Merci beaucoup Marie d'avoir appelé. Un message pour vous Danielle Assoun. Connaissez-vous le diaphragme contraceptif et le conseillez-vous?
Bien sûr que je connais. J'ai été la génération qui a utilisé le diaphragme. Bien
Est-ce que
évidemment.
Vous le conseillez?
Oui, ça m'arrive de le conseiller. Effectivement, il y a des diaphragmes qui sont maintenant recommercialisés parce qu'il y a eu une période où il y avait plus de commercialisation des diaphragmes. Fallait les chercher en Angleterre. Oui, ça m'arrive, mais ça relève, si vous voulez, de contraception, si je puis dire, au coup par coup. Donc, ça veut dire que ces contraceptifs sont utilisés, puis assez vite abandonné parce que l'observance en est difficile. J'ai effectivement écrit pour le collège les recommandations sur effectivement les méthodes barrières, donc effectivement je connais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on abandonne ces contraceptions très vite.
Vincent nous dit, très bonne émission, mais j'ai l'impression que les hommes sont majoritairement considérés comme des monstres vis-à-vis de la contraception. Beaucoup d'hommes comme moi vivent mal la contraception de leurs femmes et cherchent d'autres solutions. Bah tiens, Bastien, vous appelez du Cantal, quelle est votre solution? Vous avez 32 ans, bienvenue.
Ouais, Bonjour. Moi, la solution, on l'a trouvée après la naissance de notre second enfant. Donc, ma compagne s'est fait poser un stérilet au cuivre auquel elle a assez mal réagi. Donc, j'ai planché, moi, sur une solution alternative parce que je voulais prendre ma part de responsabilité. Et la solution, en fait, elle est simple. Elle existe depuis des années, voire des siècles en Chine. C'est la vasectomie. Qui se pratique en ambulatoire, qui est extrêmement peu contraignante. Moi, j'étais au travail le lendemain matin, ça fait 2 mois. Il faut que j'attende encore 1 mois avant de faire un spermogramme pour être sûr que tout soit efficace. Mais pour moi, je vois pas aujourd'hui pourquoi, comment ça se fait qu'on ne mette pas ça plus en avant quand on voit la simplicité de cette pratique par rapport à d'autres moyens de contraception, notamment féminins, qui sont effectivement contraignants comme vous venez de le dire, quoi.
Bastien, en quoi consiste l'intervention de la vasectomie?
Alors la vasectomie, ça consiste en fait à sectionner une partie du canal qui sert à véhiculer les spermatozoïdes dans l'épididyme, et donc de ce fait c'est définitif, c'est comme je l'ai dit, c'est sans douleur, ça se pratique, moi pour ma part, sous anesthésie générale, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de cliniques et d'hôpitaux qui le font sous anesthésie locale, et moi, des témoignages que j'ai pu voir pour ce cas de pratique là, ça prend 15 minutes à la pause déjeuner. Et pour être tranquille à vie, et pour que nos femmes et nos compagnes n'aient plus à absorber ni produits, ni à se faire poser quelconque dispositif intra-utérin.
Monica nous dit, mon compagnon, me voyant en difficulté avec ma pilule, m'a proposé de se faire une vasectomie. C'est extraordinaire, mais notre entourage bloque complètement sur le concept, surtout les hommes qui se sentent atteints dans leur virilité. Je trouve ça assez étrange. Votre entourage, Bastien, a trouvé ça aussi étrange?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, il suffit d'aller chercher l'information pour avoir les bons arguments. Bon, les informations sont assez dures à trouver. Moi, tous les sites que j'ai pu avoir de référence sont des sites qui sont soit suisses, soit canadiens, parce que c'est une intervention qui est extrêmement courante en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20% de la population masculine qui se fait pratiquer une vasectomie. Mais une fois qu'on argumente et qu'on explique le rapport bénéfice-risque, les gens comprennent très vite que c'est quelque chose dont on devrait parler plus souvent, et être atteint dans sa virilité, je m'excuse, hein, mais c'est une énorme bêtise.
Merci beaucoup Bastien pour votre témoignage. Bienvenue Prisca, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes signataire de la tribune de Sabrina Debusca hier dans le quotidien Libération. Vous défendez une méthode de contraception non hormonale qui s'appelle la symptothermie, c'est ça?
Oui, tout à fait, la symptothermie.
Qu'est-ce que c'est?
Moi, j'ai signé cette tribune, si vous voulez, parce que j'estime quand même qu'effectivement elle a sa place aujourd'hui, parce qu'il s'agit vraiment d'une liberté de choix des femmes aujourd'hui. La symptothermie, c'est une méthode d'observation du cycle qui a le même indice de fiabilité que la pilule à partir du moment où on est bien formé. Voilà, donc moi j'ai coécrit un ouvrage sur cette méthode qui s'appelle la symptothermie complète et qui est complètement accessible aujourd'hui, puisqu'en plus cette méthode, voilà, elle est disponible en téléchargement libre.
Mais en quoi elle consiste, Prisca, cette symptothermie complète?
Eh bien écoutez, c'est tout simple, on observe 2 signaux principaux de la fertilité de la femme, qui est la glaire cervicale et la température corporelle. Mmh. Bien sûr, ça demande un apprentissage au départ, hein. On ne se lance pas comme ça à l'aveuglette, parce que sinon on va reproduire les mêmes échecs que la contraception naturelle de nos grands-mères. Or aujourd'hui, les contraceptions naturelles ont évolué, et ce que je déplore personnellement, c'est que les femmes ne sont pas vraiment informées de cette évolution. Or avant de passer à des méthodes peut-être un peu draconiennes comme la stérilisation ou la vasectomie, qui sont tout à fait des choix respectables, on pourrait proposer aussi aux couples de s'informer sur ces méthodes.
Sabrina Debusca, la symptothermie complète, c'est la méthode que vous utilisez?
Oui, voilà, moi c'est la méthode que j'ai rencontrée, heureusement, après 10 ans de pilules, plein d'effets secondaires, 2 ans de stérilet cuivre, et au bout d'un moment j'en avais marre de souffrir pour ma contraception, donc je me suis dit voilà, je suis revenue au préservatif, et comme ça gênait mon compagnon, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il n'en avait pas l'habitude, déjà on a pris des préservatifs plus fins, il y a plein de choses qui existent là-dessus, et ensuite j'ai dit écoute, moi je vais connaître mon cycle, et puis les jours où on a besoin de se protéger, on se protégera, et le reste du temps on se protège pas, parce qu'on en a pas besoin.
Docteur Daniel Assoun.
Bien, ce que vous racontez, c'est finalement l'histoire de la contraception, c'est-à-dire en fait effectivement tout l'intérêt d'avoir un certain nombre de méthodes qui, je suis d'accord avec vous, ne sont pas parfaites, fait qu'on passe de l'une à l'autre. Mais en fait, la méthode symptothermique, Oui, pourquoi pas. Simplement, vous allez avoir en fait deux écoles, si je puis dire. C'est les contraintes versus les effets secondaires éventuels. Parce que j'insiste, toutes les femmes qui prennent des contraceptions hormonales n'ont pas d'effets secondaires. Donc, contrainte d'une méthode qui oblige à une sexualité différente, pourquoi pas ? Moi, tout à fait, parce que ça oblige quand même, dans ces méthodes-là, pendant la période dite à risque, d'utiliser d'autres méthodes barrières, ou alors de ne pas avoir de rapport sexuel. Alors là,
mais
vous avez,
plein de femmes qui en
là,
sont
vous
plus
avez quand même des taux d'efficacité, et là je ne suis pas d'accord avec votre auditrice, des taux d'efficacité qui ne sont pas les mêmes que la pilule. Là, on diverge complètement, c'est deux écoles
en
différentes
usage
et
parfait.
On ne peut pas se mettre
ce
d'accord.
Ce que disait Prisca, c'était en usage parfait. Effectivement, en usage parfait, c'est le même taux.
Merci beaucoup Prisca de nous avoir appelé. Alors, je sens que Thibaut de Saint-Maurice n'est pas forcément séduit par la vasectomie, mais il existe d'autres moyens de contraception pour les hommes. Il y a évidemment le préservatif. Il y a les contraceptions masculines thermiques, c'est le slip chauffant. J'ai pas trop bien compris ce que c'était.
En fait, on remonte les testicules et le fait de les remonter, ça augmente leur chaleur et du coup, la spermatogénèse s'arrête.
Et puis, il y a également les injections contraceptives de testostérone, c'est ça ?
Qui sont pratiquées uniquement à Toulouse ou à Paris, à Cochin, et très peu de gens s'intéressent à ça. Et c'est souvent des personnes qui ont eu une femme qui a eu un cancer du sein, donc qui ne peut plus prendre d'hormones, qui vont faire ça. Et c'est un peu contraignant, c'est pas sous forme de pilule.
Thibaut de Saint-Maurice ?
Oui, juste une question sur la vasectomie. Il existe aujourd'hui des techniques qui sont réversibles. On peut faire une vasectomie pour un temps donné, non ?
Pour l'instant, c'est réversible à 80%, donc pas totalement. Hein.
Non, ce n'est pas réversible. Okay, en fait. Okay. C'est-à-dire que pour le moment, ce sont des méthodes qui sont à considérer comme irréversibles. Alors effectivement, la France étant ce qu'elle est, on n'est pas en France dans cette pratique-là.
Sabrina de Busca, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public ?
Bah juste, nous, on a signé une tribune avec de nombreuses féministes pour demander une concertation nationale pour que justement tous les avis divergents se regroupent autour de la table, chercheurs, médecins, hommes, femmes, et on va chercher des solutions parce qu'on peut, il faut croire, comme nos ancêtres ont cru à la pilule, il faut croire aujourd'hui à des contraceptions sans effet secondaire.
Merci beaucoup Sabrina de Busca, je recommande J'arrête la pilule disponible en poche chez J'ai lu et marre de souffrir pour ma contraception au lien qui libère. Merci beaucoup docteur Daniel Assoun pour ce dialogue constructif avec Sabrina de Busca. Demain, on s'intéresse aux conditions pour être bien chez soi, dans sa maison, son appartement. Dites-nous quel est l'habitat de vos rêves. Pourquoi vous sentez-vous bien chez vous ? Une émission en partenariat avec le hors-série de Psychologie Magazine. Ce que ma maison dit de moi, 01 45 24 7000.